Turn in your Bibles this morning to Numbers chapter 21.
Tournez dans votre Bible dans Nombre.
And service pastors and their wives can assemble, meet for informal fellowship in the multi-purpose room.
Et après le culte, les pasteurs et les femmes de pasteurs peuvent se rassembler.
And we have started a Love Maryland campaign.
Nous avons commencé une campagne d'amour de Maryland.
Maryland.
Et ça veut dire simplement aimer Maryland.
We have a poster over here on the side. You see, right?
Et nous avons un poster qui est là-bas qui dit aimer Maryland.
Poster and what we are doing.
Et ce que nous sommes en train de faire, c'est que simplement nous aimons Maryland et nous prions que Dieu nous remplisse de son esprit et nous conduise. Quelques personnes se rassemblent à Essex. Et il y a des gens qui ont commencé à juste mettre une petite table sur un trottoir à vendre quelques livres avec une petite bannière Love Maryland et d'autres gens qui commencent dans quelques villes ici dans Maryland. Pasteur Shibley à Silver Spring.
Frederick Hagerstown.
Frederick Hagerstown.
Just that God would use us.
Et nous prions que Dieu nous utilise. Et qu'il utilise notre église. Et nous sommes en train de dire à l'État de Maryland que Dieu vous aime et nous vous aimons. Et nous partagerons cela après le culte. Donc tournez dans Nombre 21, s'il vous plaît. Au verset 6, il est dit, « Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, et ils mordirent le peuple. » Ils ont mordu le peuple, des serpents brûlants. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse. Vous savez, quand vous avez un problème, c'est bien d'aller à Moïse. Ils sont en train de mourir. Les gens étaient en train de mourir. Donc ils viennent à Moïse. Et ils disent, nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et quand il a prié pour le peuple, Dieu a montré quelque chose à Moïse. C'est un peu comme nous. Lorsque nous venons, nous nous rassemblons, nous savons qu'il y a une réponse pour les problèmes. Mais nous aimerions connaître la réponse de Dieu, la solution de Dieu, et on vient vers Dieu et marcher avec Dieu. Et une des réponses au problème aurait pu être de détruire les serpents ou de construire un hôpital ou alors de s'asseoir et de parler beaucoup des morsures du serpent, de ce qui nous s'est passé, etc. Et on peut faire beaucoup d'analyses, on pourrait des études, des analyses, étudier nos problèmes. Mais les gens sont allés à Moïse et c'est comme Jésus qui est la tête du corps. Et Moïse était le leader, mais dans Hébreux chapitre 3, il est dit que Christ est vraiment plus grand que Moïse. Et c'est ce que nous faisons, nous allons à Christ. Et au verset 7, il est dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Nous avons péché. Est-ce que nous pouvons dire cela? Nous avons péché. Est-ce que vous pouvez le dire? Nous avons péché. Nous avons péché. Ça, c'est l'enseignement de la parole. Oh, par rapport à notre propre cœur. Et j'aimerais juste faire un petit dessin sur ma petite tablette électronique, juste pour vous montrer quelque chose.
Et
donc, il dessine deux chaises, deux chaises qui représentent le bien et le mal. Et il y a un conflit entre les deux. Et nous appelons ça la dissonance intérieure. Une personne qui est fracturée dans son âme, comme l'apôtre Paul qui dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne devrais pas faire, c'est ce que je fais. C'est Romains chapitre 7. Lorsque je pèche, je passe beaucoup de temps dans ce petit monde des deux chaises du bien et du mal. Et c'est ce que je dis. J'ai péché et je ne peux même pas imaginer comment j'ai pu faire ça. Mais j'ai péché. Bien sûr que je l'ai fait. Je sais, je l'ai fait. Et peu importe, je pêche et peu importe combien de péchés j'ai fait. Comment je peux changer? J'ai péché la nuit dernière, ce matin. J'ai péché.
And in this picture, we have self-consciousness.
Et dans cette image, nous avons la conscience de soi. C'est le moi. Et nous avons l'analyse personnelle du moi. Donc, j'ai péché parce que, à cause de mon passé, mon enfance, parce que j'ai développé dans mon adolescence des mauvaises habitudes et ils ne m'ont pas quitté. Et je vais vers des gens et je pose des questions à ce sujet, mais ça revient toujours. Et je ne peux pas changer, et je n'ai pas changé, et je ne sais pas comment je peux changer. J'ai péché. Et ils dirent à Moïse, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. On peut faire un petit dessin. Voilà un poteau. Voilà le sol. Et voilà un serpent autour du poteau. Un serpent d'airain. Vous savez que le monde médical a utilisé ce logo du serpent sur un poteau. Pourquoi des reins? Parce que les reins parlent du jugement, l'or parle de la déité et l'argent parle du salut. Mais le serpent est jugé déjà sur le poteau. Et quand Jésus parlait dans Jean chapitre 3, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé. Et ce poteau dans l'application peut prendre cette forme, la forme d'une croix, là où le Fils de l'homme est mort pour nous. Et ce que Moïse a fait, c'est qu'il leur a donné la réponse pour leur péché. Et c'était quoi? Pas d'enlever les serpents. C'était de donner une réponse au milieu des serpents. Et tous ces serpents sont là sur le sol. Ils sont tout autour des Israélites. Et ils sont en train de mordre leurs pieds. Et peut-être que quand ils se couchent, lorsqu'ils dorment, un serpent vient et peut mordre leurs mains, leurs bras. Et c'est la vie dans laquelle nous vivons parce que nous aussi actuellement, notre vieille nature pécheresse que nous emmenons avec nous tout le temps, c'est une partie de notre vie. Et lorsque nous péchons, nous disons en tant que chrétien, non, je n'ai pas péché. Non, je ne l'ai pas fait. Bien sûr, ok, d'accord, j'ai péché un peu, mais je n'ai pas péché autant que lui ou elle. Bien sûr que j'ai péché un peu, mais... Et nous nous comparons en utilisant une échelle du bien et du mal. Et on pense qu'on est assis sur la chaise du bien. Et peut-être que mentalement, j'ai des fantaisies dans mon esprit, mais je n'ai pas mis en exécution. Et peut-être que j'ai quelques orgueils, mais je ne suis pas trop mauvais. Et lorsque nous considérons le fait d'analyser, de nous analyser nous-mêmes, nous sommes tellement perdus dans cette analyse parce qu'on ne peut pas s'en sortir, se sortir de qui on est. C'est le problème de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que tu ne peux pas aller très profondément dans ce que tu es. Parce que tout ce que tu peux faire, c'est plus ou moins moralement d'évaluer et de juger qui tu es. Mais tu ne peux pas échapper à la morsure du serpent. Tu dis, oui, c'est vrai, j'ai fait ça, mais je vais le couvrir parce que je n'ai pas le pouvoir de regarder à ça. Et peut-être qu'en ne le regardant pas, ça va partir. Mais actuellement, je dois pas simplement ne pas regarder à la morsure du serpent, mais je dois regarder à la réponse de Dieu que nous voyons au verset 9. Moïse fait un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, il conservait la vie. On peut dire que la psychologie d'aujourd'hui, c'est de s'analyser soi-même. Mais nous regardons à Jésus par la foi. Et nous voulons par la foi. Et nous confessons nos péchés par la foi et nous sommes pardonnés. Et la profondeur que nous regardons, à laquelle nous regardons. Et le Saint-Esprit nous dit que de notre sein couleront des fleuves d'eau vive. Et nous disons, je m'en fiche de vivre dans l'analyse personnelle, dans la conscience de moi, mais je m'inquiète plutôt de vivre par la foi, parce que c'est ce que Dieu a dit dans les Écritures. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas de miroir, les Juifs n'avaient pas de miroir, mais ils avaient un plateau d'airain poli. Donc ils avaient ce miroir poli. Et ils pouvaient se regarder, mais pas l'image qui était reflétée n'était pas très claire, pas comme aujourd'hui dans les miroirs. Et donc, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont amené cet airain. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu leur a demandé de fabriquer à partir de ces miroirs polis d'airain le lavoir. Et les gens venaient, et le prêtre venait, et il lavait ses mains. Et c'est une grande image pour nous. Plutôt que de se regarder et de s'analyser, nous venons à Dieu. Et Dieu nous donne sa parole qui nous lave. Nous lavons nos mains dans la parole et nous pouvons adorer et honorer le Seigneur. Non pas dans l'analyse personnelle de notre chair, parce que nous savons ce que c'est. J'ai péché. Et je sais ce que c'est. Et je ne peux pas résoudre le problème moi-même. Mais j'ai besoin de venir au Fils de Dieu, car son sang me purifie de tout péché et je me lave dans la parole. Et maintenant, je peux œuvrer pour le Seigneur. Et dans le psaume 4, c'est ce que nous voyons. Nous pouvons tourner dans le psaume 4. Et j'aimerais que vous lisiez avec moi au chapitre 4 de psaume. Et j'aimerais aller aussi à 1 Pierre 4, si nous pouvons. Donc, dans le psaume 4, voilà ce qui se passe. C'est quelque chose qui se passe dans notre Église. Au chapitre 4, verset 1. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Au verset 2.
Thou hast enlarged me when I was in.
Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Le mot détresse, c'est un mot très sérieux. C'est pas juste un peu de panique ou de peur, mais c'est vraiment quelque chose qui nous fait nous évanouir. C'est comme un oiseau qui a deux ailes, mais il n'a plus qu'une aile qui fonctionne. Eh bien, il va s'écraser. C'est la définition de ce mot détresse. C'est une catastrophe. C'est un écroulement. Il est dit que Dieu nous a sauvés dans notre détresse. Quand ma famille m'oublie, quand j'étais en prison, quand Daniel était dans le trouble, quand il était en détresse, c'est Dieu qui l'a sauvé. Peut-être que la semaine dernière, des problèmes sont venus et tu as lutté contre ça. Et peut-être que tu as péché encore et encore la même chose. Mais quand je suis dans une crise personnelle, il est dit, oh, aie pitié de moi, écoute ma prière. Verset 3, fils des hommes. Ô fils des hommes, Moïse aurait pu dire ça, David aurait pu dire ça, mais c'était un psaume de David. Ô fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Et Dieu dit, je suis un Dieu glorieux de puissance, d'autorité, de bénédiction et de sagesse. Mais vous avez outragé ma gloire. Comme les gens qui se moquent du nom de Dieu, ils ne connaissent pas le nom de Dieu véritablement. Ils disent, oh Dieu ne fait rien pour moi, il ne fait rien pour nous. Et nous sommes dans un conflit nous-mêmes, dans notre dilemme. Pourquoi devrions-nous vivre dans un dilemme lorsque nous avons un Sauveur? Pourquoi devrions-nous vivre avec la culpabilité alors que nous avons le sang qui a purifié nos cœurs et nos péchés? Pourquoi devrions être troublés quand les miroirs des reins ont été transformés en lavoir qui lave et qui nous purifie? Nous nous tenons dans les promesses de Dieu et nous recevons le ministère du Saint-Esprit et la parole de Dieu et nous marchons par la foi et nous disons, ô Dieu, que Dieu soit glorifié. Au verset 2, verset 3, pardon. Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ou les choses qui déçoivent? Cherchez-vous le mensonge? C'est comme si tu te tournes vers une idole. Tu cherches quelque chose qui ne peut pas te délivrer. C'est comme si cette idole est connectée avec les convoitises qu'il y a dans ton âme. Tu adores un Dieu qui est juste comme toi. Quelqu'un dit, montre-moi ton Dieu et je montrerai tes hommes. Si tu vas en Chine, au Tibet, là où il y a le bouddhisme, lorsque tu regardes à ces gens là-bas, tu vois quel est leur Dieu, parce que ces gens reflètent leur Dieu. Et si notre Dieu n'est pas un Dieu qui pardonne nos péchés, alors tu as des gens qui sont complètement brûlés et et chargés par leurs péchés. Et si nous avons des motivations qui sont déficientes, cela révèle qui est notre Dieu. Pourquoi tu vas à l'église? Parce que je suis obligé. Pourquoi tu vas à l'église? Parce que c'est le temps pour moi d'analyser ma vie. Mais nous pouvons dire, nous allons à l'église parce que nous voyons la gloire de Dieu, nous sentons l'Esprit de Dieu et nous voyons la sagesse, le pardon et nous venons à Christ parce que Christ est le Dieu qui pardonne nos péchés et qui nous guérit des morsures des serpents et qui nous délivre de l'analyse morbide de nous-mêmes et qui nous donne la conscience de Dieu. Pourquoi cherchez-vous le mensonge quand tu peux chercher la vérité, le chemin et la vie? Pourquoi tu cherches le mensonge quand tu peux mourir et vivre, et que la vie que Dieu te donne, c'est une vie de sagesse, de miséricorde, de grâce, de patience, de persévérance, de futur, de vérité, d'édification. Au verset 4, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. » Oh Dieu, qui t'a mis à part? Chacun de vous, je vous ai mis à part pour moi-même, dit Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas me glorifier. Parce que tu vas marcher dans le Saint-Esprit. Parce que je t'ai purifié de tous tes péchés. Maintenant, tu me regardes et je suis là au milieu de mes gens que j'ai mis à part pour moi-même. Et le Seigneur va m'entendre quand je vais l'appeler. C'est incroyable. Nous allons aller en Turquie aujourd'hui, nous allons voyager. Il y a déjà des gens qui sont là-bas. Et je vais voir le travail de Dieu avec un petit commencement. Mais nous ne méprisons pas les petits commencements avec Dieu. Quand les gens, par la foi, ont sur leur cœur les gens en Turquie là-bas. Comme cet homme qui a compris que Dieu l'a purifié et tu ne peux pas enlever ça de son cœur. Et nous allons de foi en foi. Et nous allons voir cela et ça va être tellement merveilleux de voir ça. Comme Pasteur Chibeli qui est en Afrique et qui vit des choses merveilleuses. Et ici, aimer Maryland, notre action, aimer Maryland, comme quelqu'un qui était là à Towson, et à droite et à gauche, partout, et de chercher des gens, des étudiants, des hommes, des femmes, au lieu de rester à s'analyser soi-même. « Oh, j'ai été mordu par un serpent. » Et au lieu de regarder à la blessure et de mourir, nous regardons au Fils de Dieu qui a été élevé et nous sommes guéris. Et nous glorifions le Seigneur et nous disons, il y a un Sauveur qui a purifié tous nos péchés, passés, présents et futurs. Il y a un Dieu vivant qui nous remplit avec son Esprit. Et nous, son corps, nous avons été mis au part. Et Dieu met à part. Je vais lui enseigner à ce qu'il met à part. Je vais leur enseigner la voie. Au verset 5, il est dit, tremblez, ne péchez point. Le Dieu vivant, le Dieu puissant qui nous regarde et qui regarde sur la terre, mais qui habite en nous. Et nous sommes émerveillés de ce Dieu. Et il nous dit, tremblez et ne péchez point. En d'autres termes, ça veut dire, ne vous analysez pas, ne soyez pas conscient de vous-même. Et les gens que Dieu a choisis, parfois, c'est des gens qui sont complètement bloqués parce qu'ils s'analysent, alors que Dieu les a choisis. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas y arriver. Mais nous, nous restons là dans l'émerveillement de Dieu et nous disons, Dieu peut le faire. C'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui touche les gens dans les collèges, dans les universités, partout. C'est Dieu qui touche les gens, qui attire les gens et qui les sauve et qui purifie leurs péchés. Et c'est Dieu qui sauve les vieux pécheurs. Et nous disons, oh Dieu, j'ai péché. Et Dieu nous dit, regarde au serpent, et nous le faisons. Et il dit, regarde et sois dans l'émerveillement, tremblez et ne péchez point. Ne vous analysez point. Regarde dans la parole, si un homme doit parler, qu'il parle des choses de Dieu, l'œuvre accomplie, le message de l'œuvre accomplie. Et c'est ce que nous faisons. Au verset 5, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs, votre nouveau cœur sur votre couche, puis taisez-vous. Pause. Dieu va vous répondre concernant notre situation financière, alors que nous avons à restreindre les gens qui travaillent dans notre ministère. C'est difficile, mais nous devons le faire. Et nous allons aider l'œuvre de Dieu en donnant peut-être 10 dollars de plus à chaque fois. Donc nous communions avec notre propre cœur, mais notre nouveau cœur. Quelqu'un a dit, je ne peux pas aller en Turquie parce que c'est un pays musulman. Mais ensuite il dit non, je vais aller parce que je me tiens dans l'émerveillement de Dieu qui m'a envoyé. Et je peux aller partout où Dieu m'enverra. Il y a un lion dans la rue, le proverbe dit, et je ne peux pas y aller. Mais nous pouvons comprendre dans Deutéronome, il est dit que Dieu a enlevé les lions petit à petit du pays promis. Au fur et à mesure que la population grandissait, Dieu a enlevé les bêtes sauvages du pays. Les gens grandissaient dans la parole, dans l'application de la parole de Dieu, dans l'orientation spirituelle que nous avons. Et donc nous nous tenons dans l'émerveillement de Dieu et nous communions avec le nouveau cœur lorsqu'on se couche. Ça veut dire méditer sur ces choses. Tu as trouvé un trésor et reste tranquille parce que Dieu est avec toi. Sortez de cet endroit, de ces deux chaises du bien et du mal. Au verset 6, il est dit, offrez des sacrifices de justice. Justice, l'œuvre de la justice, la marche de la justice, et confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent au verset 7, qui nous fera voir le bonheur? Beaucoup disent qui nous fera voir le bonheur. Il y a des gens qui disent, oh, je connais tout du christianisme, je connais tout ce qui se passe dans le monde, je connais tout de ce qui se passe. Qui me montrera le bonheur? C'est un peu comme une attitude cynique. Vous savez, quelqu'un qui dirait d'une façon très sarcastique, qui me fera voir le bonheur? On ne va pas te faire voir quoi que ce soit de bon. Mais voilà la réponse. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. C'est ça la réponse. Fais lever sur nous la lumière de ta face. Lorsque Étienne était lapidé, tu voyais la lumière de Dieu sur lui. Moïse dans le désert. Sa face était complètement lumineuse de la gloire de Dieu. Il devait se couvrir. Tu vas de cette question, qui nous fera voir le bonheur, à la lumière de la face de Dieu, la marche par la foi, l'action de Dieu, le réveil de Dieu, l'esprit de Dieu, le corps de Christ. Nous voyons le mystère qui est révélé et c'est à cela que nous regardons. Et au verset 6, Verset 7, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Le froment et le mou qui parlent de la nourriture.
There are people that have one house, two houses, three, seven houses. There are people that have money.
Il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont des maisons, qui ont tellement de choses.
There are people that have opportunity after opportunity.
Ils ont des opportunités après opportunités.
For us, it says, you have put gladness in my heart.
Mais pour nous, ce n'est pas une question de richesse. C'est une question de joie dans notre cœur. Nous avons la joie, la paix dans notre cœur. Plus que tout l'argent que les gens possèdent. Nous avons quelque chose de plus que la prospérité matérielle. Nous avons quelque chose que Christ a. Et ce qui était en Christ nous a été donné. Et lorsque les gens étaient mordus par les serpents, ils regardaient à Jésus et ils étaient guéris. C'est la vie que Dieu nous a donnée. Et au verset 9, il est dit, « Je me couche et je m'endors en paix. » Est-ce que tu peux te coucher et t'endormir en paix, dormir en paix? Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est le psaume de David. Il était dans une cave à En-Gedi, dans une caverne. Et Saül, le roi Saül, le chassait. Mais ce n'était pas un problème, parce que Dieu fait luire sur lui sa face. Et il met la joie dans son cœur, et il est délivré de l'analyse de lui-même, de la conscience de lui. Il est oint avec grâce, vie et une orientation spirituelle par la foi. Il regarde à Dieu, il connaît Dieu, et Dieu nous envoie. Et nous aimons Maryland. Et nous aimons le travail que nous faisons, et nous nous aimons les uns les autres. Et si quelqu'un parle, il ne parle pas de son péché, mais il parle des choses de Dieu. Et si quelqu'un parle, il parle de la vérité de Dieu, et il a lavé ses mains dans le lavoir des reins. Et c'est ce que nous avons dit toute cette semaine. Et au premier culte ce matin, nous avons au moins 400 personnes qui sont venues au premier service. Et il y a des nouvelles personnes qui viennent. Quelqu'un a dit ce matin, je peux voir dans les gens que c'est dans les gens. Ce n'est pas juste dans les leaders qui sont là, mais c'est dans tous les gens qui sont dans l'Église. C'est au sujet de Dieu dans les gens. Et nous disons oui, parce que c'est ça l'œuvre accomplie, parce que c'est facile pour nous d'être gelé dans notre personnalité. Je suis en colère avec elle, je suis en colère avec lui, je suis même en colère avec moi-même. Je me frappe moi-même mentalement et je bats les autres aussi. Mais quand c'est Dieu qui m'aime, il m'entend. Donc je finis par m'aimer lorsque c'est Dieu qui travaille dans ma vie. Et c'est parce que il y a un serpent d'airain élevé sur un poteau qui guérit et qui enlève nos péchés et qui nous construit. Et nous sommes en train de parler maintenant. Et nous offrons des vrais sacrifices, des sacrifices de justice. Et le Seigneur dit, et je dis à Dieu, « Oh Dieu, je me frappe moi-même, je me condamne. » Et nous disons à Dieu, « Est-ce que ça suffit ?» Et Dieu nous dit, « Non, ça ne suffit pas. » Et Dieu nous dit, « Plus fort et plus longtemps. » Et ça prend toute ma vie. Et je tourne la gloire de Dieu en honte. Et il n'y a rien de divin dans ma vie. Mais quand je viens à Christ, et que Dieu nous dit, es-tu satisfait? Nous disons non. Et nous disons, est-ce qu'il y a un baume en Galade? Est-ce qu'il y a une guérison? Est-ce qu'il y a un sauveur pour quelqu'un comme moi qui pêche? Et je suis un pêcheur. Est-ce qu'il y a un baume? Est-ce qu'il y a une guérison? Et on nous dit, regarde au poteau, à la croix. Et nous sommes émerveillés au Fils de Dieu. Que Dieu soit venu. Et nous sommes dans l'émerveillement. Je perds l'analyse de moi-même. Je perds l'orientation de moi-même. Et je regarde à lui. Mais avant, nous offrions des sacrifices d'animaux. Et maintenant, ce sont des sacrifices de notre lèvre, sacrifices de justice. Peux-tu m'adorer? Peux-tu me suivre? Peux-tu parler au sujet de moi? Crois-moi. Et nous disons, oui, Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie pour ma vie. Et je t'adore et je te remercie. Et il dit, maintenant, ma gloire n'est pas tournée en honte ou en outrage. Et ça, c'est le corps de Christ. Et nous parlons l'un à l'autre au sujet du royaume de Dieu. Et nous pouvons le sentir dans notre esprit. Nous disons Amen, Amen. Et les gens en Turquie ont découvert quelque chose. On a un homme qui a dit, qui était un musulman, il a dit à sa mère, je suis devenu chrétien. Et sa mère lui a dit, tu ne peux pas être chrétien, nous sommes musulmans. Elle dit, non, maman, je suis devenu un chrétien et Christ est réel. Et la famille était complètement bouleversée. Il a dû quitter. Il a quitté la ville. C'est devenu quelque chose de terrible pendant un an. Il est revenu et il a eu plus de troubles encore. Et la police s'est mêlée à tout ça. Mais il ne pouvait pas dire, non, je ne suis pas un chrétien. C'est quelque chose qu'il ne pouvait pas dénier parce que quand ton péché est lavé, tu le sais. Quand Dieu t'appelle par ton nom, tu le sais. Quand Jésus est réel pour ta vie, tu le sais. Et c'est ce que tu suis. Et nous offrons des sacrifices de justice. C'est notre nouvelle vie, c'est la vie du corps, c'est notre appel. Priez pour nous, car jeudi, je vais aller en Hongrie aussi. J'ai vécu là-bas plusieurs années, je vais aller là-bas pour quelques jours, et nous reviendrons ici ensuite. Priez pour nous. Et j'aimerais vous dire à chacun, ce que nous avons n'a pas de valeur. Ce que nous croyons est si puissant. Ce que nous avons est éternel. Ce n'est pas en vain. C'est puissant. C'est la plus grande puissance sur la terre. C'est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. Et ce que nous faisons, comment nous vivons, ce que nous embrassons est si puissant. L'aveugle est venu vers Jésus et Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse? Il lui a dit, guéris-moi, et Jésus l'a guéri. Et Bartimée était juste comme toi et moi. Ne sois pas coincé avec ces idées de la chair et de la sagesse des hommes, mais sois un suiveur par la foi du Fils de l'homme, de Jésus. Nous ne serons pas honteux. Et nous savons que Dieu nous a mis à part pour le glorifier.